Direct en jeu, la radio insolite. Quand même, ça me fait plaisir d'accueillir, alors je vais dire un jeune ado pubère, parce que là, franchement, Christian, il a démarré il n'y a pas très longtemps. En fait, si je ne dis pas de bêtises, il a réalisé son premier long métrage dans le siècle et le millénaire précédent. Bonjour, Christian.
Bonjour, Alain.
Ça te plaît comme présentation, un peu jeune ado pubère?
Écoute, c'est un peu exagéré. Parce que, bon, c'est effectivement mon premier long métrage, Les 4 saisons d'Espigoule, est sorti en 1999. C'était la limite.
Avant ou après Jésus-Christ? Non, je rigole, excuse-moi, je plaisante.
Oui, non, non, 99, non, c'est pas si vieux non plus.
Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, là? Vas-y, dans la rubrique J'accuse, c'est qui? C'est toi qui as eu l'inspiration, ouais, voyant un long métrage? C'est toi qui as toujours aimé le cinéma? Qu'est-ce qui s'est passé?
Dans le cinéma? Non, mais écoute, il me semblait que c'est ce que j'avais de mieux à faire de ma vie, tu vois. Non, j'avais une passion pour le cinéma depuis mon enfance, quoi, tu vois. Après, moi j'ai grandi dans un petit village du Haut-Var, tu vois, c'était pas évident pour moi de me dire je vais faire ce métier. Pour moi, faire du cinéma, c'était comme devenir astronaute, tu vois. Donc il a fallu que j'attende un peu.
Il y en a qui le font, astronaute, hein.
Oui, oui. C'est sûr. Moi, là, il faut des diplômes, par contre. Cinéma, c'est quand même plus ouvert, on peut faire ça en autodidacte. Et donc c'est à 18 ans que je me suis dit, mais oui, mais après tout, pourquoi pas, c'est ce que j'ai envie de faire, alors je vais faire ça. Et ça c'était une passion chez moi, absolue. Donc voilà, je me suis mis à bricoler, à faire mes petits films dans mon coin. J'ai jamais fait d'école, hein, j'ai fait un peu des films de commande, et puis après, très rapidement, j'ai fait des courts-métrages, et puis... En 96-97, j'ai tourné mon premier long métrage, Les 4 saisons d'Espigoule, dans mon village natal. Hein. C'était une comédie qui racontait une année de la vie d'un village provençal, un village un peu moitié imaginaire et moitié réel, puisque je filmais les vrais gens de mon village. Sous forme, j'en faisais une comédie. Ce film est sorti en 99. Est rapidement devenu, dans le sud de la France, un film culte un peu. Espigoule est devenu l'archétype du petit village provençal, le Paco Mocher, l'animal mythique, enfin, qui est un animal qu'on évoque dans le film, est devenu un peu l'animal fabuleux, le plus célèbre du département. Enfin, voilà, j'aime bien cette idée de la mythologie.
Alors un truc que j'aime bien, c'est que logiquement Espigoule est un village imaginaire, mais il a quand même été consacré en 2001 comme la 154e commune du département du Var. J'ai trouvé ça très original.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est le conseil départemental, enfin à l'époque conseil général, qui avait offert les panneaux au village et qui l'avait consacré comme une nouvelle commune varoise. Et aujourd'hui, quand on parle de ce village, qui s'appelle en réalité Gina Servi, hein, c'est le village donc, où j'ai grandi. Souvent, il est désigné sous le nom d'Espigoule aujourd'hui. Même dans les agences immobilières, on le voit souvent écrit Espigoule aussi, c'est amusant. Il y a les panneaux, et puis ça c'est inscrit dans les lieux, il y a le lotissement, Espigoule, enfin il y a plein de choses sur l'Espigoule.
D'accord. Bon, tu es quand même passionné d'histoire, tu as dit sud de la France, donc évidemment quand même très marqué par le débarquement de Provence. Et c'est en 2022 que tu découvres ce qu'on appelle le cahier rouge du maquis.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai mis un peu de temps pour le découvrir. Cet ouvrage avait été publié en 2007. Alors c'est quoi le cahier rouge du maquis? C'est en fait le journal de bord de Gleb Sivirine qui avait été qu'il avait tenu pendant ses 6 mois de maquis. Ça, c'est quelque chose de tout à fait original. Un chef de maquis qui tient comme ça son cahier et tous les jours qui écrit ce qui se passe dans son maquis. Ça n'avait pas vocation à être publié au départ quand il avait fait ça. C'était plus pour ses camarades, pour ses enfants, de laisser une trace de ça. Finalement, en 2007, ses enfants ont décidé de le faire publier. Voilà. Mais moi, je suis passé un peu à côté de cette édition. C'est en cherchant un projet, parce que j'avais tourné pour le 70e anniversaire du débarquement de Provence, donc en 2014, j'avais tourné un documentaire sur cette histoire, sur le débarquement. Il n'y avait jamais eu de film sur le documentaire sur le débarquement de Provence. C'est incroyable. Vu le nombre de films qui sont faits sur celui de Normandie. Et donc, voilà, je tenais 10 ans après, pour le 80e anniversaire, à m'inscrire aussi dans cet événement. Et, Et je cherchais un moyen de l'aborder. Et le thème des maquisards, souvent méprisé, oublié quoi, au cinéma. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi. Il y a des choses comme ça aussi qui passent à la trappe du cinéma français. Les maquisards en font partie. Et donc je me disais, voilà, c'est un bon angle d'attaque pour raconter un peu la résistance de l'intérieur, quoi, qui se préparait à ce débarquement. Et plusieurs amis me parlaient depuis un moment de ce cahier rouge que j'avais pas lu, je sais pas pourquoi, j'étais passé à côté de l'édition. Et là donc je l'ai lu dès les premières pages et j'ai compris que ben oui, c'était ça que je devais faire, il y avait plus de doute là-dessus. Donc voilà, je me suis mis à vouloir adapter ce cahier, ce journal de bord, d'abord en fiction. Après j'ai vite vu que j'avais pas le temps pour m'inscrire dans le 80e anniversaire de d'en faire une fiction, puis ça coûte, j'avais pas le temps de trouver les sous, et donc je me suis dirigé vers un projet documentaire. Alors un projet documentaire, là c'était un peu compliqué, contrairement à celui que j'avais fait sur le débarquement. Là j'avais pas d'image d'archives, pas de témoins. Pour le 70e anniversaire, il y avait encore des survivants, il y avait encore des personnes âgées qui avaient participé à ce débarquement. Bon, là, c'était fini. Il y avait plus de maquisards vivants aujourd'hui, enfin en 2022. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une autre manière de l'aborder. Ça tombait bien, parce que je voulais sortir un peu de ces schémas classiques de documentaire avec voilà, voix off, images d'archives, interviews. Bon, j'avais envie d'autre chose. Et je me suis dit, comment raconter cette histoire? Et en fait, ce qui m'avait frappé à la lecture du cahier rouge, c'est justement la jeunesse de ces maquisards. C'est des gamins, ils avaient 16 ans, 18 ans, 20 ans. Pour la plupart, ils fuyaient le STO, le service du travail obligatoire en Allemagne. Ils ne voulaient pas partir. Et donc, ils partaient dans les collines. Ils étaient récupérés par groupe. Comme ça, on les cachait. Mais il fallait bien faire quelque chose, et c'est ça qui avait donné l'idée au chef de la résistance de créer des maquis. Et pour ça, il fallait former ces jeunes, il fallait en faire des combattants. Ils n'avaient aucune vocation à faire la guerre, hein, à la base. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on est allé chercher des gens, notamment ce Gleb Sibiri. On est allé le chercher chez lui, proposer de prendre le commandement de ce maquis, qui allait devenir le maquis du Lovar. Et il a accepté, et donc il a quitté sa femme qui était enceinte, mais c'est elle-même qui lui a dit non, il faut que tu y ailles, tu veux pas refuser ça, c'est pas possible. Et donc il a pris le commandement de ce maquis, il a tenu ce journal de bord, et il a mené sa mission à bien, puisque ces maquisards ont participé à la libération du Var, et quand même après ils sont partis, ils se sont engagés, même à la fin après la libération du département, après le débarquement, ils ont continué la guerre. Voilà, c'est cette jeunesse-là de ces maquisards, c'est ça qui m'a frappé. Je me suis dit, il faut arriver à redonner cette histoire aux jeunes, et puis et faire participer des jeunes au projet, ce qui était un peu le cas pour le projet de fiction, où j'avais vraiment, je voulais réunir des dizaines et des dizaines de jeunes et recréer ce maquis dans les collines. Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour un documentaire? Et donc, l'idée, si je suis trop long, tu me coupes.
Non, mais j'allais te poser la question, justement, quand même, ce qui est original, c'est que tu aurais pu prendre des gens un peu connus, des acteurs qui ont déjà fait leurs preuves. Non, vous avez carrément cherché avec Félix Chuyenne, qui le mettait en scène, vous avez cherché un groupe de jeunes recrutés en plus auprès des missions locales du Var. Et là, je me suis dit, mais attends, carrément, ce sont des jeunes qui n'avaient jamais eu d'activités théâtrales ou cinématographiques ou documentaires, et pourtant vous vous lancez là-dedans, quoi. Je trouve ça très original aussi.
Alors ça c'est un peu le hasard, les hasards de la vie qui m'ont mené dans cette direction-là. C'est-à-dire que le premier élan, embarquer des jeunes, moi d'abord j'avais pas pensé au théâtre tout de suite. Mon premier élan c'était l'enquête historique, emmener ces jeunes dans une enquête sur les traces des maquisards, rencontrer des enfants de maquisards, rencontrer des historiens, aller dans les musées, tout ça. Et ça me paraissait évident de faire un film. Mais sauf que j'avais pas de... L'idée me paraissait excellente, mais il n'y avait pas de finalité à ce projet. On faisait une enquête, pourquoi? Quel était le but de ça? Je tournais un peu en rond, je me disais, bon, il faut que je trouve quelque chose. Alors au début, je cherchais plutôt des jeunes passionnés d'histoire, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, je vois mon ami Philippe Chuyenne, donc un mec qui est metteur en scène varois, qui est connu dans la région, qui a fait des pièces comme Les Pieds Tanqués, qui c'est qui a un gros succès, c'est plus de 600 représentations, je crois, les pétanques. Et donc il me dit, mais ça fait longtemps, moi, que j'ai envie de faire une pièce sur le maquis Vallier, parce que ce maquis tenu par Gleb Sivirin, en fait, il va prendre comme nom de code le nom de lieutenant Vallier, qui va donner au maquis ce nom, le nom de maquis Vallier. Et donc il me dit, ça fait longtemps que j'ai envie d'adapter le Cahier Rouge et faire une pièce sur le maquis Vallier. Et d'un coup, tout est devenu évident. J'ai dit, ben voilà, on va produire une pièce de théâtre dans laquelle on va aller chercher des jeunes, on va les entraîner à la fois dans une enquête historique, et en même temps, on va en faire des comédiens, on va les faire monter sur scène. Et la métaphore, là, à 80 ans d'intervalle, de prendre des jeunes qui n'étaient pas il y a 80 ans en arrière, on avait pris des jeunes qui n'étaient pas des soldats, il fallait en faire des combattants. Et là, c'est un peu pareil, on prend des jeunes qui n'étaient pas forcément comédiens, et les transforme en comédiens, les faire monter sur les planches. Alors, Philippe, il a immédiatement adhéré à cette idée, il a dit, c'est super, mais par contre, il me dit, mais moi, je connais, il sait que j'aime bien travailler avec des non-professionnels, il m'a dit, mais moi, le cinéma, le théâtre, c'est quand même une chose sérieuse, c'est pas comme le cinéma, enfin, où on peut se permettre de travailler avec des amateurs, et c'est théâtre, il faut être là tous les jours, connaître son texte. Il m'a dit, on peut pas fonctionner comme ça, il faut qu'on aille vers des conservatoires, vers des jeunes un peu qualifiés, ou du moins qui ont déjà un peu d'expérience. Alors bon, j'avais rien contre cette idée, même si c'est vrai qu'aller chercher les jeunes dans la rue, ça m'intéressait, mais bon, lui, il voyait ça autrement. Bon, j'ai respecté, sauf que les jeunes dans les conservatoires n'étaient pas du tout disponibles. On a fait le tour de plusieurs conservatoires, ils étaient scolarisés, ils avaient leur propre projet de théâtre, et donc c'était pas possible, aucun n'était dispo. Donc il fallait un retour à la case départ, et c'est là où... le producteur Bruno Jourdan me dit, mais moi, je connais bien quelqu'un à la mission locale, ben, je dis, ça c'est une super idée. Mais je dis, Philippe, il sera sans doute pas trop d'accord. Et puis, au début, la pilule a été un peu dure à avaler pour lui. Et puis finalement, il a relevé le défi. Donc effectivement, on est allé chercher dans les missions locales du Haut-Var des jeunes capables de... qu'on considérait capable de monter sur scène, de devenir des comédiens en 6 mois. 6 mois, c'était le temps de formation qu'avaient eu les jeunes du maquis Vallier. Et voilà. Et donc, tout ça s'est transformé. Ce qui était intéressant, je trouvais, dans ce projet, c'était de faire du théâtre une métaphore du maquis, en fait. À 80 ans d'intervalle, voilà, on reprenait des jeunes, mais nous, on n'en faisait pas des soldats, on en faisait des comédiens.
D'accord. Est-ce que ça a été facile ou ces jeunes, comment, ont eu quelques réticences?
Alors, des réticences, globalement, on est tombé sur des jeunes quand même assez disciplinés. Hein. Ils ont été sérieux, la plupart d'entre eux. Je dis la plupart d'entre eux parce qu'il y en a un qui l'a été moins que les autres. Et donc, il nous a fait un peu enrager. Mais au final, je dois lui rendre hommage parce que ça s'appelle Maxime. Parce que Maxime, qui était le plus dissipé du groupe, qui nous a fait, qui a parfois mis en danger le projet théâtral, a fait du bien au projet cinématographique. Parce que l'idée, donc, c'était ça, c'était en même temps de créer pour 2024 une pièce de théâtre avec ces jeunes. Et moi, l'idée, c'était bien sûr, avant tout, c'était d'utiliser cette pièce de théâtre, cette création, pour en faire un long métrage documentaire. D'accord. Donc, c'était un projet en 2 volets. Et donc voilà, alors ça a été compliqué avec lui parce qu'il était bon plutôt sur scène, il jouait bien, mais par contre il a manqué quelquefois ses devoirs et il a pas toujours été sérieux et ça a posé des problèmes. Mais dans le film, ça oblige Philippe à sortir de sa zone de confort. Philippe, donc le metteur en scène, et ça crée des scènes exceptionnelles. Donc au final, le film lui doit beaucoup à ce jeune. S'ils avaient été tous aussi disciplinés que les autres, ça aurait été un peu plus lisse sans doute. Et d'ailleurs, le système narratif aurait été totalement différent. Je voulais faire au départ des interviews pour structurer le récit. Là, c'était même pas la peine. Le récit, il avait vraiment un relief déjà extraordinaire.
D'accord. Donc, il est en sortie nationale, si je dis pas de bêtises, le
16.
Sortie nationale, c'est, on va le voir dans toutes les salles.
Oh, non, c'est un documentaire, bien sûr que non. Donc on sort le film surtout bon, à Paris, dans le sud, il y a quelques salles. On a fait beaucoup d'avant-premières dans le sud depuis le mois d'avril. Mm-hmm. Et donc autour du Var, dans le département limitrophe en Provence, on va dire, là il sort dans quelques salles en même temps. Il y a une salle aussi qu'il a pris à Saint-Quentin, au CGR de Saint-Quentin, la semaine prochaine. Mais voilà, on démarre doucement. Et après, l'avantage de ce film, c'est que ça ne se joue pas sur les premières semaines. Voilà, les salles viendront, elles arriveront d'elles-mêmes doucement, et puis on se déploiera sur le territoire national. Mais c'est l'avantage du documentaire, enfin, des petits films. On n'est pas obligé de mettre le paquet dans les deux premières semaines. Enfin, c'est ça qui est... C'est un film, je suis convaincu que l'année prochaine, ou dans 2 ans, dans 3 ans, mais moi, mes films, ils passent 30 ans après, ils continuent à tourner, à exister.
C'est le plus important, c'est ce que j'allais dire.
C'est ça c'est ça qui m'importe. La Spigoule, voilà, on continue à faire des projections, les 4 saisons des Spigoules, ou des autres, hein, de tous.
Comment je peux avoir des infos sur le film, sur ton actualité à toi ?
Sur mon actualité à moi, alors on a un site qui s'appelle espigoule.com où il y a pas mal d'informations sur mes films. Il est pas très à jour là, mais sur ma teaser, je pense que il est un peu à la ramasse. Mmh. Sinon, il y a les pages Facebook, on est assez efficace sur Facebook.
D'accord.
Sur ma page personnelle, sur la page il y a une page les films d'Espigoule sur Facebook, et notre société de production. Mmh. Donc voilà, je pense que, enfin, en tout cas pour les dates de sortie, elles seront annoncées à la fois sur Facebook, peut-être sur Instagram aussi, mais c'est pas moi qui le gère, donc c'est un peu plus aléatoire. Sur Facebook, sur notre site espigoule.com, mmh. Là les dates elles seront affichées.
D'accord. Parfait. Bah écoute,
si jamais on a des auditeurs qui sont à Paris la semaine prochaine, ils sachent que le 16 et le 17, donc il y a deux avant-premières auxquelles j'assisterai, qui se dérouleront au cinéma les trois ailes, le 3 Luxembourg. Mmh. À 20h30 le 16 et 17 septembre.
Parfait, et ben le rendez-vous est pris, pas de problème. Et puis ben, au plaisir de te croiser et de visionner quand même dans une salle de cinéma le film. Merci à toi en tout cas.
Ouais, il sera bientôt à Lyon aussi, mais j'ai pas encore la date.
Super.
Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et puis à une prochaine.
Avec plaisir.